franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
On commence par une guerre.
Il y a bien sûr le martyr syrien et particulièrement celui du peuple d'Alep. On a entendu l'émouvant appel du maire d'Alep chez Léa Salamé il y a quelques instants. Il y a Mossoul, où les forces irakiennes tentent de déloger l'État islamique. Près de 2 mois après le début des combats, La Croix raconte ce matin l'horreur d'une population prise au piège. Le balai incessant des ambulances, la mauvaise coordination entre les militaires irakiens et les humanitaires pour tenter de faire face à l'afflux de blessés. À Mossoul, écrit l'envoyé spécial du quotidien Jérémy André, le carnage ne s'arrête pas de l'aube au milieu de la nuit. Et puis, il y a cette autre guerre, cette guerre au Yémen qui a fait depuis 2014 plus de 7000 morts et 37 000 blessés. Le photographe yéménite Mohamed Weiss raconte dans le making-of de l'AFP son pays en proie à l'horreur et à l'oubli. Parfois, quand on photographie la guerre, écrit-il, on tombe sur une scène qui vous extrait du monde des hommes, une chose qui vous transporte dans une autre dimension inhumaine. Il en a fait l'expérience, c'était le 8 octobre dernier, lors de frappes aériennes sur une cérémonie funéraire. C'était une vision de l'enfer, comme je n'en avais jamais vu, même dans un film d'horreur. Un enfer largement passé sous silence au-delà des frontières de mon pays. Imaginez-vous pénétrer, jambes flageolantes, dans un abattoir humain. 140 personnes tuées ce jour-là. Alors il y a les morts sous les bombes, et puis il y a cette autre réalité, la faim. L'UNICEF estime que 3 millions d'habitants au Yémen ont besoin aujourd'hui d'aides alimentaires. Photo insupportable de cette jeune fille de 18 ans, squelettique. Malheureusement, écrit Mohamed Weiss pour la communauté internationale, ce conflit passe bien après celui de la Syrie voisine, et toute solution de la crise au Yémen paraît conditionnée au règlement du conflit syrien. Mon cœur saigne, c'est à lire et à regarder sur le making-of de l'AFP.
À la une de la presse française, Hélène, la candidature de Manuel Valls, évidemment.
Et à la une de la presse suisse, figurez-vous, du journal Le Temps, avec cette révélation fracassante sur le désormais nouveau candidat. On le croyait catalan d'origine.
Eh ben non.
Il s'en prévalait, et puis les analystes politiques ont largement usé du champ sémantique autour du Matamor, notamment ce matin encore. Eh bien, si, il est aussi catalan, mais il est également suisse. Donc, c'est Richard Verli qui raconte comment le désormais ex-premier ministre a toujours eu la Suisse un peu honteuse. Interrogé sur la question il y a un an, Manuel Valls ne nie pas...
Benoît vous regarde avec des yeux.
Vous saviez pas qu'il était suisse ?
Ben non, j'ignorais tout ça.
Eh ben voilà, vous voyez, un nouvel angle pour votre campagne. Alors, interrogé donc il y a un an sur cette révélation, Manuel Valls ne nie pas être aussi suisse par sa mère. En fait, effectivement, elle est originaire du Tessin, mais il évacue assez rapidement la question... La Suisse, ajoute-t-il, c'est plutôt mon enfance. Mais quand on fait le choix de la France à sa majorité, on fait aussi le tri dans ses origines, explique-t-il. Eh bien oui, le tri, ça donne la Suisse pour décor, explique le journaliste, celui des randonnées en montagne. Ça passe. Mais la Suisse que l'on tient aussi à distance, pour des raisons politiques, soucieux de ne pas apparaître comme le rejeton d'une dynastie bourgeoise, ce qu'il est, dit Richard Verli, Manuel Valls préfère se fondre dans les paysages alpins qu'être confondu avec la Confédération des banques. Ben voilà, c'est dit, Manuel Valls revendique sa catalanitude, comme dirait Ségolène Royal, et pas sa suissitude.
Bon, on précise qu'il était de nationalité espagnole jusqu'à sa majorité, mais à ma connaissance, il n'a pas
choisi la France.
Nationalité suisse. Dans la presse française alors, Hélène, comment est accueillie sa candidature ?
Alors c'est le parallèle Renzi Valls qui fait recette ce matin, les deux jumeaux du social-libéralisme, comme les décrit Libération, les deux beaux gosses de la social-démocratie, raillent Maurice Ulrich dans l'Humanité en reprenant un vieux titre de presse qui insistait sur leur trajectoire commune, sauf que l'un est tombé dimanche, alors que va devenir l'autre ? Eh bien, accueil assez sceptique, il faut bien l'avouer, de cette 8e candidature à la primaire de gauche. Une gauche agonisante, décrit aujourd'hui en France Le Parisien, avec une myriade de prétendants pour un PS aux 1000 nuances de rose, qui cherche désespérément son patron. Et puis une mue surtout qui pose question. Deux premiers ministres que l'on connaissait transgressifs, Manuel Valls tente d'arborer l'habit du candidat rassembleur et réconciliateur de la gauche, et ce n'est pas son moindre défi. Sud-Ouest rapporte par exemple toutes les formules qu'il va devoir se faire pardonner par son camp. Alors vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure, Benoît Hamon, en voici d'autres. Du mot socialisme sans doute dépassé car il renvoie à des conceptions du 19e siècle, disait-il en 2009. Aux Roms, qui ont vocation à revenir en Roumanie, ça c'était en 2013, en passant par « Moi, j'aime l'entreprise devant le MEDEF », juste après votre éviction du gouvernement. Manuel Valls contre Valls Manuel, crince déjà Paul-Henri du Limbert dans le Figaro. Adieu, le Manuel Valls de jadis, celui qui voulait déverrouiller les 35 heures ou qui menait bataille contre son camp à propos du burkini. Place au Manuel Valls qui va nous réciter tous les psaumes de la liturgie socialiste. C'est son étrange destin s'il souhaite remporter cette primaire. Manuel Valls doit fronder contre lui-même, conclut-il.
Au Front National, une frondeuse également.
Et ce n'est pas la première fois qu'elle diverge, mais alors cette fois, Marion Maréchal-Le Pen s'est fait rappeler la ligne « Vite fait, bien fait ». Séquence relatée par le Figaro.fr. Il faudra revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'avortement. C'est ce qu'elle affirmait hier à l'hebdomadaire d'extrême droite présent. Récidiviste sur le sujet, qu'elle est, Marion Maréchal-Le Pen, sauf que immédiatement, dans la foulée, la candidate Marine Le Pen lui a rétorqué « Il n'y aura aucune modification ni du périmètre, ni de l'accès, ni du remboursement de l'IVG ». Et puis si vous avez aimé les vignettes Panini de votre enfance avec vos idoles de joueurs de foot, vous adorerez le nouveau dossier sorti ce matin par Mediapart qui poursuit son immersion dans les contrats des plus grands joueurs grâce au document dit « Football Leaks ». Ce matin, les clauses les plus folles, parfois les plus saugrenues, en cliquant sur des petites photos type Panini. Donc, Hugo Lloris qui touche 8000 euros s'il gagne avec son club de Tottenham, mais 4000 s'il perd. Mario Balotelli assuré de toucher une prime d'1 million de livres à Liverpool s'il se conduit bien, à savoir s'il ne crache sur personne. Moi, je dis qu'à ce prix-là, on se retient. L'attaquant brésilien Neymar qui touche 83 euros s'il signe un autographe à un enfant ou encore le club autrichien qui impose de ne pas venir ivre aux entraînements sous peine de voir son salaire amputé de 30%. La discipline, c'est la discipline et le foot, c'est décidément beaucoup l'argent. Et puis, je termine par un article qui pourrait bien finir par devenir le lot quotidien de toute revue de presse, s'arrêter sur les rumeurs les plus absurdes et pourtant abondamment relayées. Celle dite du Pizzagate ce matin. Les ingrédients ? Une pizzeria, Hillary Clinton, la pédophilie et, encore une fois, les réseaux conspirationnistes qui racontent tout et n'importe quoi. Alors ça a failli se terminer par un drame, car ce sont ces fausses infos qui mêlent tout cela, qui ont poussé ce week-end un homme armé à faire irruption dans une pizzeria, dans la pizzeria en question aux États-Unis, convaincu qu'il allait délivrer des enfants planqués dans les sous-sols, histoire d'une rumeur absurde qui ne désenfle pas, lue ce matin encore dans Le Temps. Voilà, moi j'assume la suissitude de ma lecture. Sous la plume de Valérie de Graffenried, vu la gravité de l'affaire, le FBI intervient pour tenter de faire retirer les fausses accusations sur Internet, ce qui n'empêche pas le fils du nouveau conseiller à la sécurité de Donald Trump de continuer à tweeter « Tant qu'on n'aura pas prouvé que Pizzagate est faux, eh ben ça restera une histoire ». Eh ben oui, mais c'est prouvé, mais ça ne suffit toujours pas.
Merci à vous, Hélène Jouan.